Oh que oui, 10h02, excellent. Mardi 7 avril 2026, un mardi qui file comme un lundi puis qui fait qu'on va être mêlé à peu près toute la semaine avec ça. Comme on a été plusieurs à être mêlés toute la fin de semaine, on est-tu rendu samedi, dimanche, les longs week-ends, ça fait ça. Et là, c'est un 4 jours pour ben du monde. Fait que c'était votre cas, j'espère que vous en avez profité adéquatement puis que le retour au travail n'a pas été trop tough à matin. La bonne nouvelle, c'est que ça se fait sous le soleil, ce retour au travail-là, aujourd'hui. La moins bonne nouvelle, c'est que c'est encore fret pas mal. Moins 11 au ressenti, moins 7 au thermomètre, mais ça va rester généralement ensoleillé pour toute la journée. Quoi qu'on ait un petit 40% de possibilité d'averse de neige. Par contre, pour les prochains jours, c'est super beau. Demain, mercredi, c'est 3 degrés ensoleillés. Jeudi, 13 degrés ensoleillés. Bon, vendredi, on a une petite erreur de parcours là, à 7 degrés et de la pluie, mais après ça, le soleil qui revient pour la fin de semaine avec 7 et 10 degrés. Sur la route, tout est beau pour l'instant. S'il y a quoi que ce soit, 418-971-1021. Vous l'avez entendu dans l'introduction, je ne suis plus seul en studio pour le Point de Max. Catherine Bachand qui est en avant de moi. Catherine Bachand, bonjour!
Salut, bon mardi!
Comment ça va?
Ça va et toi?
Ça va très, très bien.
C'est drôle, dans l'image standard, tu te dis « je suis tout seul ».
Ouais, puis là, je ne suis plus seul. Puis là, c'est de l'adaptation un peu de oui. « OK, là, j'ai quelqu'un avec moi, fait que là, qu'est-ce qu'on fait? » Les salutations, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Est-ce que tu as passé un beau long week-end?
Oui, toi, t'étais 4 jours de congé, hein?
Ouais.
Moi, j'ai travaillé vendredi, donc un petit 3 jours. J'ai eu le temps de voir des amis, recevoir la famille et tout et tout. Fait que ça a été un beau week-end.
Beau week-end qui a quand même été riche en actualité, notamment à l'international. Puis on est pas mal là-dedans encore ce matin. On va en faire le tour, dans les nouvelles tantôt, mais aussi dans une vingtaine de minutes avec l'ami Georges Mercier, analyste en politique internationale qu'on aime beaucoup et qu'on aime bien jaser dans le Point de Max. Puis ces temps-ci, on lui parle beaucoup avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, fait que ce sera le cas aujourd'hui. Sinon, on va aussi discuter dans une quarantaine de minutes avec André Bernier, le président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, un dossier de Radio-Canada, éducation, une petite révolution qui fait peur à plusieurs. Puis je suis resté surpris quand j'ai vu ce dossier-là avec ce titre-là de Radcan ce matin parce que André Bernier, on y avait parlé il y a quelques semaines au moment de... J'allais dire l'annonce, ça n'a jamais vraiment été annoncé, là, mais c'est dans une chronique, Mario Dumont qui en parlait de cette, en guillemets, révolution-là dans le monde scolaire, avec les fameuses enveloppes budgétaires pour les écoles. Avant, c'était bien compliqué, puis là, telle enveloppe, c'était pour ça, puis rien d'autre, puis là, il y en avait des dizaines et des dizaines et des dizaines. Là, on vient simplifier ça. J'en avais parlé avec André Bernier. Lui, était super content, parce que même dans les semaines avant, il m'en parlait souvent de ça quand il venait sur nos ondes. Là, les enveloppes budgétaires super précises, ça n'a pas de bon sens, faut changer ça. Fait que là, ça change. Je lui parle, il est super content. Puis là, Radio-Canada arrive en nous disant « Ouais, c'est pas tout le monde qui est super content de cette nouvelle-là, ou du moins, il y a des gens qui ont des réserves. » Fait qu'on va essayer de comprendre tout ça avec André Bernier. 418-971-1021, c'est le numéro pour nous rejoindre en studio par texto. Vous pouvez aussi vous joindre à nous sur le Twitch, twitch.tv/blvd/fm pour nous entendre, mais aussi nous voir en studio.
Ça, c'est une autre adaptation pour moi, là, je te dirais.
On l'oublie vite, tu vas t'en rendre compte. Là, on l'oublie très, très rapidement. Qu'on est scruté.
C'est peut-être un danger, d'ailleurs, qu'on oublie peut-être qu'on est diffusé visuellement
en
également.
Effet, la bonne nouvelle, c'est qu'avant, on devenait en micro ouvert pendant les pauses.
Ah non.
Et ça, c'est ça. Ça, on fait plus ça parce que c'était trop dangereux.
Ben voyons donc, c'est bien trop dangereux, c'est sûr. Tu peux pas faire ça de l'autre côté avec Dallaire, là, il va perdre sa job la première fois.
Ouais, c'est clair que ça aurait été un grand risque, mais c'est ça, fait que le Twitch, vous pouvez nous écouter sur le blvd.fm, l'app mobile, boulevard 102.1 aussi, vos haut-parleurs intelligents à la maison et tout ça. Fait que, puis pour en passant, le reste, en guillemets, le reste du show, là, je vous ai parlé de la première heure, là, mais ça tu sais, l'open mic avec Audrey Pinchot, ça reste là à 11h. On vient avec un bon bulletin de nouvelles à 11h30. Pascal CV vient faire son tour en fin d'émission, fait que cette deuxième portion de show-là qui change pas nécessairement. Mais pour la première heure, je suis très bien accompagné de Catherine Bachand, notamment aux nouvelles. Et on va y aller, Kat, faire un petit tour des news qui sont les plus importantes en ce mardi 7 avril.
Bien, c'est sûr, tu l'as mentionné. Tantôt, on va parler avec Georges Mercier, expert en politique internationale. Tout ce qui se passe du côté du Moyen-Orient retient beaucoup l'attention, notamment parce que l'échéance fixée par le président américain Donald Trump arrive à grands pas. C'est 20h ce soir, heure de l'Est, pour ouvrir le détroit d'Ormuz. ou encore subir les bombardements massifs. L'Iran a appelé aujourd'hui sa jeunesse à former des chaînes humaines autour des centrales électriques. Le président iranien a pour sa part annoncé que 14 millions de personnes avaient répondu à l'appel pour se porter volontaire au combat. Donc, oui, Donald Trump qui a menacé de bombarder l'ensemble des centrales électriques, des ponts iraniens si l'Iran ne respectait pas l'ultimatum pour 20 heures ce soir. Le pays entier peut être anéanti en une seule nuit. C'est comme ça qu'il l'a lancé hier en point de presse, Donald Trump. Il a donc prolongé à plusieurs reprises ses échéances précédentes, mais là, il dit que cette fois-ci, c'était définitif. Sur une publication sur son réseau True Social pendant la fin de semaine, et je m'excuse des gros mots orduriers que je vais utiliser, mais je pense que c'est important qu'on le mentionne, il a quand même écrit « Open the fucking street, you crazy bastards, or you'll be living in hell ».
La première fois qu'un ami m'a envoyé ça en screenshot, en capture d'écran,
tu penses que c'est une joke.
On sait que Donald Trump est capable d'aller loin. Oui. Puis souvent, on m'envoie quelque chose, je me dis « Ah, ça n'a pas de maudit bon sens, mais ça doit être vrai, c'est Donald Trump ». Ça, j'étais persuadé que c'était fake news, ouais. Pour reprendre les termes qu'aime bien Donald Trump. J'étais sûr que c'est fake news. Là, je m'en vais sur Truth Social, voir le compte de Donald Trump. Et le président des États-Unis a vraiment écrit ça, des propos... Oui. « Open the fucking street, you crazy bastards ». Ça dépasse les limites de l'entendement.
Il n'y a pas de mots pour décrire la... C'est pas n'importe qui, là. C'est le président de l'une des plus grandes puissances mondiales qui s'en va écrire ça sur ses réseaux sociaux. Si bien que je voyais des extraits du point de presse qui a été donné hier par la Maison-Blanche où a participé Donald Trump. Il était accompagné de Pete Hegseth, notamment, puis je vais vous expliquer pourquoi après, là. Mais il y a un journaliste qui lui dit « On a questionné votre santé mentale avec les propos qu'il a tenus. » Il dit « J'ai pas entendu ça. » Fait que, tu sais, il s'en... contre-fiche. Puis il a rajouté un message ce matin dans lequel il dit « Une civilisation entière s'éteindra ce soir à jamais. Je ne le souhaite pas, mais c'est probable. Cependant, maintenant, nous assistons à un changement de régime complet et total où des esprits différents, plus intelligents et moins radicalisés prévalent. Peut-être qu'un miracle révolutionnaire pourra se produire. Qui sait? Nous le découvrirons ce soir lors d'un des moments les plus importants de la longue et complexe histoire du monde. » Alors, c'est ce qu'il a mentionné. « Que Dieu bénisse le grand peuple iranien », il a terminé sa déclaration de cette façon-là.
C'est dit dans des propos moins orduriers, mais cette première phrase-là, là, « Une civilisation entière s'éteindra ce soir à jamais », t'es le président des États-Unis, puis tu y vas de propos comme ça, on dirait qu'il n'y a plus jamais rien qui va nous surprendre de Donald Trump.
On va pouvoir poser la question à Georges Mercier parce qu'il y a plusieurs analystes aujourd'hui, notamment si vous allez lire Yves Boisvert dans la presse, mais il n'est pas le seul à écrire là-dessus, mais ce sont des déclarations qui pourraient s'apparenter à des crimes de guerre. Tu ne fais pas des déclarations comme celle-là. Là, donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Hier, l'armée américaine qui a raconté quand même un truc qui ressemble à un scénario de Top Gun, alors qu'on a mené une opération de sauvetage spectaculaire en territoire iranien pour récupérer deux aviateurs éjectés de leur F-15. Ils avaient été touchés par un missile. L'opération qu'on a qualifiée d'extrêmement dangereuse a mobilisé jusqu'à 155 appareils, dont des bombardiers, des chasseurs, des hélicoptères. Le premier aviateur avait été récupéré relativement rapidement. Le second était blessé, saignait abondamment. Il s'est caché dans une crevasse en montagne où il s'est soigné lui-même pendant une cinquantaine d'heures avant qu'on soit capable de le localiser grâce à la CIA et qu'on puisse le secourir. L'opération a coûté cher. On dit que ça a coûté deux hélicoptères Black Hawk et deux avions C-130 qui ont été détruits, certains délibérément sabotés pour éviter que ça tombe entre les mains des Iraniens. Il y a cinq Iraniens qui ont été tués. Pas d'Américains qui auraient perdu la vie. Les deux aviateurs ont été déclarés en territoire ami dimanche à minuit.
Donc, 20 heures ce soir, l'heure limite pour Donald Trump. Et on en parle dans les prochaines minutes avec l'ami Georges Mercier. À part ça, à l'international, qu'est-ce qui fait jaser, Kat?
J'ai beaucoup suivi, je ne sais pas si c'était comme moi, mais la mission Artemis pendant la fin de semaine. On dirait que ça fait du bien un peu, parce que notamment les discours qui sont tenus tant par la NASA que par les astronautes qui sont en mission, c'est très, très, très touchant. Alors, les quatre astronautes qui prennent part à cette mission-là sont devenus les humains à se retrouver le plus loin de la Terre. Le Canadien Jeremy Hansen, Johnson et ses collègues sont également devenus les premiers hommes à pouvoir observer de leurs propres yeux la face cachée de la Lune. Artemis a battu un record de distance de la Terre, un record qui appartenait à Apollo 13. Le record de cette distance, c'est 406 771 km et ça menait à une interruption de communication avec la Terre entre 18h45 et 19h25 au moment où il se trouvait derrière la Lune.
Ce qui était prévu, là, en passant,
oui, c'est ça.
Il n'y avait pas de panique quand on a perdu la communication, mais j'imagine que d'un bord comme de l'autre, on avait hâte de retrouver la communication au moment où on devait la retrouver. Là.
Mais tu l'entends dans la voix aussi, ouais. Là, ils sont vraiment contents que « Oh oui, je te reçois », il y a comme un sourire dans la voix, puis c'est très... Tout ça est très, très, très touchant. Oui. D'ailleurs, il y a eu un moment, moi, qui est vraiment venu me chercher, qui m'a tiré les larmes, là, pour vrai. Là. C'est quand on a nommé un cratère au nom de Carol. Carol, elle, c'est l'épouse de Reed, qui est commandant. Le commandant Reed Wiseman, il élève seul ses deux filles depuis le décès de sa femme qui a été emportée par un cancer en 2020. Et ce cratère-là, qui n'était pas nommé, a été nommé Carol. Et il le nomme, il l'épelle. Et quand tu vois les images, là, si vous pouvez mettre la main sur cette vidéo-là, les quatre astronautes ont les yeux dans l'eau, ils serrent dans leurs bras. C'est un moment très, 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 très émotif. Et j'écoutais David Saint-Jacques qui mentionnait que... Jeremy Henson et Reed Wiseman sont des grands chums dans la vie. C'est des meilleurs buddies. Puis ils sont serrés dans leurs bras. En tout cas, bref.
C'était beau. Ça fait du bien de l'avoir dans l'actualité ce matin. Tu l'as dit, là, mais...
Oui.
Puis là, on le fait en plus un à la suite de l'autre.
Oui.
En Iran, puis là, tu passes à ça qui est plus beau, on va plus feel good.
Et ce matin, la NASA a publié une photo de la Terre prise de la Lune. Tu sais, en tout cas, c'est beau, ça fait du bien. Puis j'ai une expression que j'aime bien utiliser qui me vient de mon amie Stéphanie qui dit d'aller s'asseoir sur la Lune. Parce que quand tu t'assois sur la Lune, tu prends un peu de distance puis tu te rends compte que vu d'en haut, tes problèmes sont bien petits.
Oui, en effet.
Ça fait un peu du bien. Alors, ça a permis d'aller s'asseoir sur la Lune un petit peu, cette histoire-là. Puis ça continue. Là, ils sont en train de revenir. Là, ça va leur prendre 3-4 jours. On amorce donc maintenant les étapes qui vont mener à un retour sur Terre.
Et ici, au Québec, Catherine Bachand, depuis 14 minutes, les membres de la coalition Avenir Québec qui peuvent voter officiellement pour le prochain chef qui deviendra premier ministre du Québec aussi.
Premier ou première ministre, oui, depuis 10 heures que le vote a commencé. Ça va se poursuivre comme ça jusqu'à dimanche 15h et on va connaître, je pense, assez rapidement l'identité de la personne gagnante. Hier, Bernard Drinville a reçu des appuis importants.
Qu'on n'attendait plus nécessairement.
Non, pas du tout. Des gens qui ont gardé la neutralité jusqu'à la toute fin. Et on parle ici quand même de Simon Jolin-Barrette, le fils du père. On pourrait l'appeler comme ça.
En quelque sorte, en effet.
Sonia Bélanger et Jonathan Julien, trois ministres qui ont décidé à la toute dernière minute de se ranger derrière Bernard Drinville. Un ralliement pour un vrai changement à la tête de la CAQ, qu'on dit un ralliement pour retrouver nos valeurs fondatrices, notre volonté de réformer le modèle québécois et notre détermination à défendre notre identité nationale. Selon tous les sondages depuis le début de la course, Christine Fréchette a un avantage marqué et elle aussi a eu un nouvel appui ce matin en la personne de Jean-François Simard, qui est notamment ministre responsable de la capitale nationale. Ça, c'est arrivé ce matin. Puis autre chose qu'on a appris, la ministre Isabelle Charest ne sera pas candidate aux prochaines élections provinciales au mois d'octobre. La députée de Brome-Missisquoi en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux hier. Elle a laissé entendre qu'elle attendait que le François Legault show soit terminé. C'est pas comme ça qu'elle l'a dit, c'est moi qui l'ai dit comme ça, là. Qu'il quitte réellement son poste de premier ministre pour rendre sa décision publique. Elle, qui était notamment ministre responsable des sports, dit maintenant vouloir réfléchir à ses prochains engagements et projets personnels. Puis quand tu regardes les sondages pour Brome-Missisquoi, tu dis c'est bon.
Ouais,
pas d'affaire que tu t'en présentes pas parce que c'était vraiment pas elle qui était pressentie, c'est le PLQ loin devant.
Ouais, puis non seulement la CAQ était pas pressentie pour repasser, là, on est quatrième, 2 points de pourcentage devant QS. On est, bon, pas si loin des conservateurs, mais on est loin du Parti québécois et surtout du Parti libéral qui devrait passer. Pour Isabelle Charest, il n'y avait aucune chance de repasser.
Elle était à 45,9% lors de l'élection en 2022, puis là, présentement, elle était à 11% dans les derniers sondages.
Débarque.
Fait que, ouais, une méchante débarque.
Merci beaucoup, Catherine Bachand. Au sport, retour en action ce soir pour le Canadien de Montréal, les Panthers de la Floride qui seront au Centre Bell. Malgré une défaite dimanche, Montréal qui reste à 2 points du tout premier rang dans l'Atlantique. Le match de jeudi face au Lightning de Tampa Bay qui sera évidemment aussi très important. D'ailleurs, hier, les Sabres de Buffalo ont eu le dessus sur Tampa par la marque de 4-2. Fait que là, les deux équipes qui sont à 102 points. Nos remparts de Québec, eux, qui ont forcé hier la tenue d'un match numéro 7 qui sera disputé ce soir à Charlottetown. Hier, c'est une victoire de 4-2. Et là, le match ultime ce soir, c'est dès 18h. Notez bien l'heure là, dans les Maritimes avec l'heure qui est différente. C'est à 18h, heure de Québec. Il y a deux autres matchs numéro 7 en passant pour les fans de hockey junior là, ce soir dans Kiou. Sherbrooke qui affronte Shawinigan et Gatineau qui affronte Rouyn. Rien ne va plus pour les Blue Jays de Toronto au baseball après avoir été balayé dans une série face aux White Sox de Chicago. Toronto qui s'est incliné 14-2 hier face aux Dodgers de Los Angeles, menant la série de défaites des Jays à 5. Et on reste à Toronto après une défaite de 115-101 face aux Celtics de Boston dimanche. Les Raptors qui tenteront de se reprendre dès 19h30 ce soir face aux Heat de Miami. On est dans le basket. Au retour, l'ami Georges Mercier qui est chroniqueur, analyste politique international. Toujours le fun de lui jaser. Et vous devinerez qu'on va discuter de ce qui se passe en Iran. Le deadline qui est à 20h ce soir. Trump qui continue d'en rajouter. Est-ce que ce que fait Donald Trump présentement ou ce qu'il risque de faire, ça pourra être mis dans la catégorie des crimes de guerre? Un paquet de questions pour Georges Mercier. Et si vous en avez, n'hésitez pas. 418-971-1021 par texto. Max Larouche et Catherine Bachand maintenant. Woohoo! Avec vous dans le Point de Max, 10h18.